Stéphane Sarrazin, député provincial de Glengarry, Prescott et Russell. Monsieur Sarrazin, la bienvenue ce matin. Un gros merci d'être là.
Bon matin tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici ce matin. Puis c'est toujours le fun. On improvise, puis on jase, puis...
Improvise. J'aime pas vraiment le mot improvise. Improviser. C'est plus une libre conversation comme tu aurais avec un citoyen.
Exact.
OK? Porte à porte ou dans
pas vraiment de sujet prédéterminé.
Un citoyen vient te voir et te pose et jase avec toi pendant une heure. C'est un peu ce qu'on essaie de faire ici.
Oui.
Évidemment, des fois, c'est le fun. Des fois, j'ai des questions un peu plus difficiles. Puis ça, ben, ça fait partie de la vie. Comme un citoyen aurait des fois des questions qui te rentreraient. OK. Il va falloir que. Non, mais c'est.
T'aimes ça le faire patiner?
Puis ça donne qu'on a eu beaucoup de ces questions-là en fin de semaine avec l'Expo Hawkesbury. On a rencontré des milliers de personnes.
Ah, ben oui. Hey,
donc, on peut dire qu'on est...
T'as pris le pouls du monde, puis comment ça va?
Honnêtement, c'est toujours le fun. Hein. Moi, c'est la troisième fois. C'est notre deuxième Hawkesbury, une fois à Rocklin. Puis c'est vraiment intéressant de parler aux gens. Moi, je dis que c'est notre bulletin, là, tu sais, notre report card. Là. Les gens viennent à nous, puis disent, hey, vous faites un bon travail. Il y a ça qu'on n'aime pas. Parce que souvent, les politiciens oublient que... On est élu par les gens, puis on est la voix des gens. C'est pas Stéphane Sarrazin qui se lève un matin ben avec une idée, qui dit « c'est ça qu'on va faire ». On est là pour être la voix des gens, c'est les idées des gens, puis c'est une belle opportunité justement pour ramasser le feedback, puis voir c'est quoi les défis des gens dans notre circonscription absolument.
Qui sont?
Ben, donc,
tu dresses une liste un peu de ce que tu as retenu par curiosité?
Tu sais, ça ressemblait beaucoup à 2022 quand on a cogné aux portes. Donc le coût de la vie, on sait que c'est... C'est la priorité, là, tout coûte cher. Puis aussi, tu sais, le besoin de logement, le besoin des infrastructures. On sait que l'Internet, tranquillement, on s'en vient là. On fait des investissements.
Ça a avancé pas mal. Et sais-tu quoi, excuse? Ben, j'ai remarqué une chose, moi, depuis quelques temps. C'est que j'avais beaucoup de points morts sur mon iPhone. Puis généralement, tu sais, quand tu prends un appel sur le chemin, parce que tu as deux, trois trucs à régler, puis là, ça coupait à chaque trois secondes. J'ai vraiment trouvé qu'il y a une amélioration quand même par rapport aux dernières années. Là.
Absolument.
Parce que là, je commence à remarquer, j'ai hey, ça coupait
ça
tout
coupe
le temps.
Plus ici,
ça coupait tout le temps, un peu avant Calypso, puis là, ça coupe plus.
Moi, ça coupe encore à l'Orignal.
Puis on voit des tours, hein, on voit des tours nouvelles.
Hey, ça pousse comme des champignons, ça.
Ouais, absolument. Ouais. Puis je pense qu'il y a le Eastern Ontario Regional Network, Yorn. Vous pouvez aller voir sur leur site web et... Il donne l'information quel tour qui va être mis en service prochainement parce que c'est pas fini. Là. Il va en avoir plus en plus de tours. Tu sais, il a vraiment essayé de pouvoir avoir du service partout, surtout dans nous. On a des milieux ruraux, c'est dur à. On le sait habituellement, les ondes. Moi, je dis souvent à quelqu'un, hey, appelle-moi pas pour les prochaines 5 minutes, là, je vais passer à tel endroit.
Ouais.
Fait éventuellement, on espère que tout ça.
Ou je leur dis, si ça raccroche, je te rappelle quand je vais avoir fini de passer cette zone-là. Je l'avertis avant d'arriver. Ouais.
Mais ça, c'est quand même pour de vrai, non, c'est loin d'être parfait, mais contrairement à ce que c'était quand je suis arrivé ici, ça a changé pas mal, là. T'sais, en 10 ans, là, on a fait des pas de géant. Là.
Ah oui, parce qu'on s'en allait, là, puis on perdait le signal, puis on rappelait. Puis là, on voit ça moins en moins. Là.
Mais la seconde où tu n'étais pas au cœur d'un village,
exact.
Il se passait rien. Tu n'avais pas de signal nulle part, à moins d'être directement dans le cœur du village. Là, maintenant, tu es capable de rouler quand même sur les chemins plus empruntés. OK, je comprends. Mais tu sais, au moins quand tu es à 17, ou ça à 417, ou ça à 138, t'as beaucoup moins de zones mortes que tu avais auparavant. Là. Plein de questions pour vous, monsieur le député Sarrazin. Je vais t'en poser plusieurs dans quelques minutes, notamment. Inévitable sujet, l'élection américaine, parce que là, Doug Ford a réagi hier. Le Parti libéral de l'Ontario qui a déposé, elle, sa vision hier aussi. Les promesses électorales commencent déjà pour 2026, donc je vais un peu essayer de te tirer 2-3 verres du nez. Et inévitable sujet également, puis ça sera le prochain, la fameuse augmentation substantielle des coûts de la police provinciale de l'Ontario qui va venir vous toucher, vous, OK, à la maison, dans votre auto, parce que vous payez des comptes de taxes ou vous louez un appartement, puis vous allez inévitablement avoir des augmentations de loyer tôt ou tard liées à ça, parce que c'est énorme, l'augmentation des coûts. Je sais qu'il y a plusieurs municipalités qui se creusent la tête en ce moment, donc je vais avoir un peu ton opinion là-dessus. Let's go!
Go FM.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Go! Go!
Bon, ça part bien le matin ici à GoFM à 7h19. Je vous souhaite un excellent début de journée. C'est mercredi. Mathieu Manning, Élise Guindon qui est là et le député provincial Stéphane Sarrazin. Si vous voulez réagir en passant, vous avez des questions, il y a des trucs. Moi, je suis là. Je vous lis au 1-877-921-0921 par texto ou encore via Facebook sur Messenger à la page J'aime GoFM. Monsieur Sarrazin, là, il y a plusieurs municipalités en fait dans notre coin. Autant dans Prescott-Russell que dans Stemmondanda à Singlingary, d'ailleurs, là, c'est un problème aux deux endroits, qui se gratte la tête un peu parce qu'ils ont reçu une facture sur le bureau. La facture, elle vient de la police provinciale de l'Ontario. Et là, on compare le coût de l'année passée par rapport à ce qu'on projette pour la prochaine année. Et ça amène des gros problèmes au niveau des prochains budgets. Tout le monde a ce problème-là. Ça oscille entre 3 et 4,5 % tout dépendant des municipalités d'augmentation juste liée au coût de la police provinciale de l'Ontario. J'imagine que vous avez 2-3 appels à ce sujet.
Hey, c'est sûr, on en parle. Puis écoute, on a vu les municipalités, que ce soit les directeurs généraux ou les maires, envoyer des demandes pour aider financièrement au gouvernement de l'Ontario. Puis je crois qu'il va y avoir de l'aide parce qu'on le sait. Puis il y a déjà de l'aide. T'sais. On prend pour acquis que le gouvernement n'aide pas quand ça vient à la police, mais on a souvent des projets comme celui-là du Mobile Crisis Response ouais. Team, qui est toutes sortes d'initiatives puis de projets qu'on fait avec l'OPP, que vraiment, c'est nous qui finance ça. Mais il faut comprendre une chose. Des fois, quand on parle de 3 % du budget municipal, 4 % du budget municipal, il y a certains endroits que 1 % représente 50 000 $ Puis il y a des endroits que 1 % représente 100 000 $ Si on prend nos municipalités ici, donc on peut
voir...
Dans
des plus petits budgets
exactement.
Aussi. Là.
Donc si on parle de 4 % ça peut être, je ne sais pas moi, 280 000 $ 300 000 $ Ce qui fait que tu sais, quand tu as un service de police, tu as des hausses de salaire, on le sait, ça fonctionne par l'offre et la demande. Puis aujourd'hui, qui veut être policier? Donc, tu dois offrir des bons salaires parce que tu sais, c'est quand même dangereux ce métier-là. Donc,
je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que tu peux pas payer un policier 42 000 par année. Là.
Au salaire minimum.
Ouais. Ben, tu sais, on comprend tout ça. Puis en plus, ici, on comprend qu'on a tout l'aspect du bilinguisme qui est pas une mauvaise affaire à avoir dans sa poche, évidemment, les services en français. Donc, c'est sûr que là, ton bassin de candidats, ben, tu sais, ça ajoute une affaire de complexité. J'imagine que tu as ça aussi dans toute l'équation.
Exactement. Puis on l'entend souvent, hein, les détachements d'ici, souvent vont chercher des policiers qui ont étudié pour devenir des policiers de la Sûreté du Québec. Parce qu'ils parlent français, qui ont. Je pense que c'est Nicolet ou Saint-Nicolas qui avait.
Une école de police quelque part au Québec.
Parce
ouais.
que nous, on a besoin des francophones dans la région. Puis aussi, tu sais, on a des routes majeures qui passent dans des petites municipalités. Si on regarde Hawkesbury-Est, qui était vraiment une petite municipalité avec pas beaucoup de payeurs de taxes, mais ils ont la 417. Mais s'il y a un accident mortel sur la 417, puis il arrive des enquêteurs, tout ça, ça monte vite là, la facture pour l'OPP. Donc, c'est pour ça que. Le gouvernement va sûrement venir en aide. C'est quelque chose qu'on va sûrement entendre dans les prochains.
Parce que là, à l'heure actuelle, un peu comment ça fonctionne, c'est que le gouvernement provincial va financer certaines initiatives comme justement l'unité de crise mobile en santé mentale, va peut-être financer des trucs du genre, on a vu passer l'achat d'hélicoptères, entre autres. Mais le budget au jour le jour, la province... Et pas nécessairement fournit pas beaucoup d'argent, c'est ce que je comprends?
Bien, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait bien des villes, des petites villes qui avaient leur propre service de police, comme Hawkesbury. Comme un exemple, je me rappelle, c'était la police d'Hawkesbury. Donc, c'est venu à un point que c'était plus viable d'avoir ça parce que c'était rendu trop gros. Puis là, d'avoir. Donc, quand tu fais partie du groupe de l'OPP, ben si quelque chose arrive ici de catastrophique, ben ils peuvent aller chercher des officiers de d'autres détachements. On le voit souvent, là, ça se fait. Tandis que quand il y avait la police d'Hawkesbury, les petites polices locales, c'est pour ça qu'on en voit moins en moins. Donc, oui, les municipalités payent pour leur service de police. Puis moi, en tant que maire, j'ai siégé sur les boards de police. Puis je peux vous dire que en tant que maire, quand je regardais qu'est-ce qui se passait chez nous, le rapport qu'on avait aux trois mois, j'en revenais tout simplement pas. Trouver un gars inconscient dans la concession 4, la police, je me disais, ça se passe-tu vraiment chez nous, ça? Mais c'est la réalité. Non, mais non, tu sais, quand, okay. quand t'es,
oui, non, mais
t'es, oui,
t'es,
t'es
un maire d'une petite ouais. municipalité, tu te dis, voyons donc, ça se passe ailleurs, ça se passe pas chez nous, ça. Mais non, il y a beaucoup de choses, puis la police, croyez-moi, sont très occupés.
Oui.
Ouais, puis il y a des coûts liés à ça, évidemment. Là. On oublie que ça coûte cher, là, rouler tout ça, là.
Absolument. Puis tu sais, la même affaire pour les services d'incendie des municipalités. Là, quand il sort 12 personnes avec deux camions, trois camions, parce qu'il y a quelqu'un qui a vu une lumière jaune dans le champ avec un peu de je sais pas, là, de
fumée,
condensation. Oui. Ben, tu sais, ça, c'est tout des coûts. Que, donc, puis je okay. pense que de plus en plus, on envoie des appels comme ça. Puis c'est tout un défi. Là, quand
mais là l'appel à l'aide des municipalités, tout ça. Puis là, en plus, il y a la loi qui interdit aux municipalités de faire des déficits et tout ça. Puis là, il y a des choix. Soit tu coupes d'indépendance pas mal ou tu augmentes pas mal le taux de taxation, évidemment. Il n'y a pas de miracle à faire. J'imagine aussi que vous avez eu deux, trois coups de téléphone de certains conseillers ou certaines personnes qui...
Ben,
ont peut-être fait part de leur doléance.
Puis, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir les coups de téléphone parce que, honnêtement, moi, je suis très près de toutes les maires. On se rencontre régulièrement. Puis, même si les directeurs généraux veulent m'appeler, je suis là. Puis, mais qu'est-ce que. C'est difficile parce que tout coûte cher, honnêtement. Puis, les municipalités reçoivent beaucoup d'argent déjà du gouvernement de l'Ontario puis du gouvernement fédéral. Mais c'est quand même pas assez. Tu sais, il y a certaines municipalités qui reçoivent comme 2 millions par année à travers des programmes d'infrastructure, tout ça. Puis là, on vient, le gouvernement dit qu'il s'engage à en donner plus aux municipalités parce qu'il comprend très bien que les municipalités, tout coûte cher. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais maire d'Alfred Plantagenet, avant que je sois maire, on avait un garage où est-ce qu'on avait une station d'incendie. Bon, aujourd'hui, si tu veux bâtir une station d'incendie conforme, ben c'est comme plusieurs millions de dollars.
Ouais.
Il y a un poste de police, tu sais, on se rappelle qu'à Hawkesbury, il y avait le poste de police à côté de l'aréna. Mais là, il y a un nouveau poste de police qui a coûté certainement quelques millions de dollars. Donc, c'est toutes des choses. Mais c'est quelque chose qui était nécessaire. Tu sais, je regarde, nous, si on regarde ici, là, dans le détachement de Russell, je sais pas si vous avez déjà vu le poste de police à Rockland. J'ai été visiter ça, puis je comprends même pas comment est-ce que les polices font pour travailler là. Là. C'est petit,
sur le bord de la 17, là.
Ah oui, sur le bord de la 17. C'est, mm-hmm. c'est... Fait que ça, il y a des investissements à venir là-dedans aussi. Puis on sait que le détachement à Embrun, le détachement de Russell, parce que Russell, t'as un détachement qui fait Rockland et Embrun. Donc, eux autres aussi auront besoin d'expansion parce qu'il y a plus de gens qui travaillent là. Puis c'est...
Mais
il y a plus de grossisse, hein?
C'est là où j'allais, c'est qu'il y a plus de citoyens, mais aussi on en demande plus.
Exactement.
Aux services policiers. On est plus exigeant qu'on ne l'a jamais été. Là.
Puis on le voit avec le vol des voitures, tout ça. T'sais, c'est toutes des choses. On voit que c'est de plus en plus occupé. Est-ce que les manufacturiers d'auto font leur part? C'est toutes des choses que le gouvernement doit s'ajuster. Puis il veut dire, il n'y a rien de. Je pense que c'est tout à propos de s'adapter hein, dans la vie. Puis, je regarde aujourd'hui, toi, tu te fais voler ton iPhone ou ton Samsung. Personne n'est capable de le débarrer. Tu sais,
ouais.
Mais l'auto, lui, qui vaut 70 000 $ tout le monde est capable de partir ça. C'est vraiment.
Avec l'iPhone.
C'est un petit peu ridicule. Tu sais, non, mais on parle
ouais.
de parler. Tu sais,
ouais, ouais.
Il devrait avoir peut-être la même façon de sécuriser l'iPhone qu'on devrait avoir dans l'auto.
Dans
je
l'auto.
Pense que ça se fait, mais en même temps. Quand ils se volent des autos, ils en fabriquent plus. Puis, tu sais, est-ce qu'il y a une volonté des manufacturiers d'aller là? Puis c'est ça que la job du gouvernement, c'est vraiment de rendre tout le monde redevable, tu sais.
Exact. Tout le monde
tout
est
un défi.
Ouais.
J'ai l'impression que Mathieu veut commenter là-dessus.
Mathieu, il a de l'air à vouloir dire quelque chose et piétine.
Ben, non, mais c'est parce que, tu sais, c'est... En fait, c'est ça l'histoire, c'est que c'était un méchant casse-tête. Un méchant calcul, là, t'as toutes tes affaires que t'essaies de mettre ensemble. Mais effectivement, en termes de municipalité, les municipalités, pour de vrai, ont beaucoup de responsabilités.
Oui.
Puis, dernière question comme ça, je pense que vous allez pas m'aimer, mais je la pose pareil, OK? Compte tenu de ce que t'as dit, compte tenu du fait que... Puis, tu sais, ça n'a jamais été... Tout n'a jamais été aussi compliqué, aussi réglementé. Tu parlais entre autres... dans le temps, le garage, il y avait un garage de bout. Le camion, il rentre dessus, il rentre parfait. Ça va être ça, notre caserne de pompiers. Aujourd'hui, tu as des normes à plus finir. Ces normes-là, évidemment, sont pas mauvaises, mais ça amène aussi des augmentations importantes en termes de coûts de construction. Tout est plus compliqué que ça n'a jamais été. Est-ce que... là, tu ne verras pas, OK? Bon, on va finir là-dessus sur le sujet des municipalités, parce que j'ai plein d'autres sujets à jaser. On a eu des premières fusions assez importantes municipales dans les années 90. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que... Puis là, c'est plus philosophique qu'autre chose. Hein? Mais est-ce que nos municipalités, il devrait y avoir un autre coup de fusion?
Ben, je pense pour... que... Je vais te répondre honnêtement, oui. Puis je pense peut-être moins dans notre région aussi, mais il y a encore des municipalités à des endroits qui ont 400-500 habitants. Là, puis, c'est, non, mais au Québec, on le voit, ça. Au Québec, c'est encore pire. Mais ici, là, tu sais, les gens dans les années 90, la fin des années 90, quand ils ont fait l'amalgamation, les gens n'étaient pas pour, OK? Comme à Alfred Plantagenet, par exemple, c'était comme 7 municipalités. Les gens n'étaient pas pour ça. Mais qu'est-ce que ça a fait? Ça nous a permis d'engager des gens, des professionnels, tu sais, des ingénieurs. Puis aujourd'hui, les municipalités ont évolué plus dans le dernier 10 ans que le 50 ans avant. Puis c'est ça le défi du gouvernement, c'est que tout va vite. Tout évolue vite. J'entendais des gens qui vont à des genres de... comment t'appelles ça? Des conférences sur l'intelligence artificielle puis sur la technologie. Puis ces gens-là reviennent, puis c'est vraiment des comment je te dirais, des champions de la technologie. Puis ils me disent, Stéphane, dans 10 ans, là, le camion de Purlator, le camion de UPS va se conduire tout seul, il n'y aura plus de chauffeur.
Ben oui.
Tout ça, là, c'est toute une adaptation. Déjà, ouais. Là, ouais. Puis, nous, t'sais, je ne sais pas ça fait combien d'années que ça existe, mais on a un gouvernement, on a un ministère du Red Tape Reduction.
Oui, mais depuis l'arrivée de Doug Ford, là, exactement. Quoi, 2018, hein?
Exactement. Donc, tu sais, on voit qu'on essaie bien de réduire le red tape, toute la paperasse, tout ça, mais en même temps, tout devient tellement compliqué, puis on doit évoluer tellement vite. On le voit, les changements, hein? On voit déjà des voitures qu'on achète, puis que tu le mets quasiment sur l'autopilote, c'est à 401, puis il se conduit tout seul. Qui aurait dit ça, le 10 ans, on aurait dit, ben voyons donc. C'est des grosses adaptations. Moi, je dis toujours, tout est à propos de s'adapter, puis un gouvernement, c'est pas quelque chose qui réagit le plus rapidement.
T'sais. Mais en fait, c'est donc, l'inverse.
C'est ça le défi.
Soyons donc, honnêtes, là.
C'est à nous de faire sûr qu'on réagit rapidement puis qu'on soit capable de suivre exactement la technologie. Puis, okay. C'est tout un défi, absolument.
7h32, on y va avec une petite toune, petit bloc pub, puis on revient dans quelques minutes avec le député Sarrazin. Parler d'élection, t'in. Parler d'élection, parce que là, on dirait que la machine est repartie. J'ai eu une couple de petites affaires aussi qui sont rentrées par texto que je vais vouloir te jaser, notamment. Puis je trouve ça bon, effectivement. Merci de me l'avoir envoyé, parce que je l'aurais quasiment oublié.
Ouh.
Mais ces histoires de médecins puis de financement, OK, je trouve ça important d'en jaser, parce que ça aussi, ça brasse en tabarnouche un peu partout sur notre territoire. Tout ça, ça s'en vient dans les prochaines minutes. Je vous souhaite un excellent mercredi, l'Est ontarien.
Dans l'Est ontarien.
Ça part bien le matin.
Ça part bien le matin.
Jusqu'à 9h.
Go FM!
Bon, on est à 7h43. C'est mercredi 13 novembre. Je vous aime à matin. Vous êtes pas mal allumés, la gang. J'ai ça plein de messages sur le 1-877-921-0921. On passe l'heure avec notre député provincial, Stéphane Sarrazin. Stéphane, un gros merci de venir t'asseoir avec nous. Je veux pas dire que t'es courageux, parce que je pense que... Tu sais, moi, j'ai toujours lancé l'invitation à tous les autres, d'ailleurs, qui les ont pas acceptés, sauf toi. Donc, je tiens à te remercier. Non, mais c'est vrai.
Ben, la porte du studio est toujours ouverte.
Elle est toujours ouverte, mais tu sais, je reçois pas beaucoup de courriels. Des fois, c'est les barrières de langue. Ça, je peux comprendre, évidemment. Quand le français, tu le maîtrises plus ou moins, c'est sûr, tu veux pas venir t'asseoir ici pendant une heure. Ça, tu sais, j'en veux pas à certains qui maîtrisent pas le français. Il y en a d'autres qui répondent pas à mes courriels, ça fait 5 ans. Mais ça, c'est un autre problème qui sera peut-être bientôt, ben, qui sera réglé incessamment. J'ai reçu quelques textos, entre autres, quelqu'un qui dit « C'est pas la police qui coûte cher, c'est les bandits. » C'est pas faux. C'est pas nécessairement faux. À un moment donné, il faut adresser le problème.
Exactement.
Et adresser le problème coûte cher pas mal. Quelqu'un d'autre aussi, c'est vrai, dans le nord de l'Ontario, Fauquier, qui est entre Smooth Rock Falls et... non, c'est pas vrai. C'est-tu entre Cap? C'est après Cap, me semble. Non, c'est avant Cap, excusez. C'est ça, c'est entre Smooth Rocks et Kapuskasing, dans le coin de Moonbeam, un peu avant Moonbeam. Fauquier, et c'est 530 habitants après la fusion municipale.
Hey. Oh.
T'imagines pareil, hein, comment ça fait pas beaucoup de monde?
Ça fait pas beaucoup de payeurs de taxes.
À 500 habitants au travers tout le grand territoire, my God, pauvres autres. Stéphane, parlez un peu parce que là, my God, le Parti libéral provincial hier qui a commencé, qui a été du dépôt de promesses électorales déjà. On dit 2026, plusieurs techniquement voient des élections anticipées. On a promis du côté libéral, entre autres, Mme Crombie, une baisse du taux d'imposition pour les gens qui gagnent à peu près entre 50 et 75 000 $ l'élimination de la taxe provinciale de vente sur l'électricité et le chauffage. Ah, ça me parle, par exemple.
Ouais.
Et de dire, entre autres, comment vous allez éponger ça. Et elle a répondu... en mettant fin aux accords douteux de Doug Ford.
Ah.
Donc, ça ne veut pas dire grand-chose pour le moment, mais moi, ça m'envoie comme message. Est-ce que la campagne électorale est commencée?
Ben, je pense que oui. On dirait, qu'on est en campagne électorale parce que quand on va à des endroits, à des que ce soit à des galops, tout ça, puis on a des gens d'un peu de toutes les parties qui prennent parole, puis ça semblerait comme si on serait en campagne électorale, mais tu sais, qu'est-ce que je trouve drôle là-dedans, c'est que si on regarde le Parti libéral, Mme Crombie, qui était une députée fédérale, qui est celle qui a travaillé avec le premier ministre de l'époque pour la taxe du carbone, puis qu'il n'y a jamais une taxe qu'ils n'ont pas aimé, les libéraux, puis qu'ils n'ont jamais incité à rien pour sauver vraiment de l'argent aux gens, puis on voit qu'est-ce qui se passe à Ottawa présentement, veut dire... c'est un gouvernement qui a accumulé plus de dettes sous Justin Trudeau que tous les autres premiers ministres dans l'histoire du Canada. Puis là, on a ces gens-là qui se tournent de bord puis qui veulent venir à la province puis dire « Ah, nous, on a la formule magique pour que l'Ontario fonctionne bien. » Bien, si vous auriez eu une bonne formule, peut-être qu'on ne paierait pas 1 milliard d'intérêts par semaine sur la dette fédérale. Donc, je me remets en question à savoir est-ce que ces gens-là vraiment sont là pour les bonnes raisons ou ils cherchent un job?
Madame Crombie, on va finir sur son sujet, là, mais je trouve ça intéressant. Madame Crombie, quand c'était le temps, évidemment, de prendre... le poste de chef du Parti libéral de l'Ontario, puis là, on avait quelques choix, évidemment. Elle avait dit, les deux derniers qui ont été à la charge du Parti libéral de l'Ontario étaient trop à gauche. Là, vous êtes trop à gauche. Laissez le NPD être à gauche, nous, on retourne au centre. T'en penses quoi de ça?
Ben, écoute, c'est vraiment, vraiment drôle d'entendre tout ça, tu sais, comme... Premièrement, parlait de rabais sur la taxe, sur l'électricité. Est-ce qu'il y a un gouvernement... qui a scrappé plus le domaine de l'énergie en Ontario que l'ancien gouvernement libéral. Puis je peux te dire, en chambre, après nous, ça fait comme notre gouvernement, pas moi, parce que moi, je suis élu depuis 2022, mais mon gouvernement est élu depuis 2018, donc 6 ans et demi pratiquement. Ça fait 6 ans et demi qu'on leur remet ça en disant, « Hey, tu sais, vous commentez sur la façon... qu'on fait les choses en Ontario, mais si vous vous rappelez bien, c'est vous qui a un peu détruit la façon où ce que les gens se procurent l'énergie, puis les prix, là, t'sais, eux autres qui ont mis en place des contrats où ce que le gouvernement payait 80 cents pour essayer à leur vendre à 6 cents du kilowatt. Ça prend pas une calculatrice. Je sais pas quelle sorte de calculatrice qu'ils ont, mais veux dire, ils peuvent dire toutes les choses. Puis écoute, dans le secteur manufacturier, avec les prix d'hydro et tout ça, ils ont chassé comme plusieurs centaines de mille de jobs ailleurs. Puis nous, on
aux
a
États-Unis
récupéré...
et oui, au oui. Québec aussi, d'ailleurs, là, avec l'électricité pas chère.
Puis nous, depuis le terme de Doug Ford en 2018, je pense qu'on a ramené 700 000 ou près de 800 000 jobs dans le secteur manufacturier en Ontario. Puis écoute, on le voit, là, les entreprises qui s'en viennent en Ontario... Doug Ford dit toujours, on est en train de manger le lunch des Américains. Puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis de voir que le gouvernement libéral dit que le gouvernement de Doug Ford ne fait pas des bonnes choses, ben je pense que même les gens ne le croient pas. Là.
OK. Curveball. Élection de Donald Trump.
Ouf.
Et là, ça ramène un peu d'inquiétude par rapport au protectionnisme américain et aux possibles réouvertures, encore une fois, de l'accord de libre-échange Canada-Mexique-États-Unis. Doug Ford a réagi hier en disant, lui, savez-vous quoi? On devrait la scraper aussi, je suis là-dedans. Mais États-Unis, Canada, on enlève le Mexique de l'équation parce que c'est une porte d'entrée pour la Chine.
Écoute, je pense que Doug Ford puis Donald Trump, c'est deux hommes d'affaires, OK? Puis je pense qu'ils vont être capables de s'entendre. Puis moi, j'ai bien confiance en des gens qui ont été en affaires parce qu'il n'y a rien de plus facile de dépenser l'argent des contribuables. Puis ça, c'est des gens qui ont été en affaires. Puis écoute, je ne dis pas que Donald Trump a toujours fait des bonnes affaires. Là. Le fait qu'il n'a pas payé toujours ses impôts aux États-Unis, tout ça, il y a beaucoup de questions.
La liste est longue de choses un peu spéciales.
Mais je regarde, tu sais, nous, on le voit, on est là, puis on voit tous nos représentants qu'on a dans tous les différents États qui sont là pour le développement économique, avec notre ministère du développement économique. Moi, j'ai confiance que ça ne sera pas si pire que ça, que ce qui se passe avec le gouvernement. On le sait que le gouvernement Biden imposait aussi des tarifs. C'est pas comme si c'était notre meilleur ami. Là,
non, ben généralement, en fait, ce qui est un peu drôle dans l'histoire, c'est qu'historiquement parlant, les démocrates ont toujours été ceux qui ont mis le plus de tarifs. Et les républicains, eux autres, c'était plus le libre marché. C'est juste que Donald Trump, lui, est un peu c'est un peu un électron libre par rapport à ce qu'on était habitué. Là. Et évidemment, tout le côté spectacle était lié à la renégociation de l'ancienne Alena.
Absolument. Je pense que c'est dur à prédire, mais je pense que moi, j'ai confiance qu'avec notre équipe, là, justement, parce que j'ai rencontré souvent des gens qu'on a un peu partout dans les provinces, je pense qu'on va venir à bout à faire des belles choses avec les États-Unis, même si que ce soit Donald Trump ou que ce soit Kamala Harris. Je pense que...
Donc, pas trop de stress pour ça?
Je pense que non.
Ça, je pense entre autres à des entreprises là, qui sont très importantes dans notre région, genre d'Evacuation Rolling Mills, entre autres.
Qui avaient déjà des tarifs. Qui fightaient déjà contre les États. Puis on travaillait déjà à essayer de réduire les tarifs avec l'ancien gouvernement. Là. Donc, il ne faut pas se cacher là, qu'il y avait plein de tarifs qui étaient imposés déjà. Fait que je ne suis pas sûr que ça va changer tant que ça. Mais ça reste à voir, absolument.
C'est intéressant, ça. C'est intéressant. J'ai reçu un des commentaires aussi, puis ça fait un peu de chemin par rapport à ce que tu as dit tantôt sur les inquiétudes des gens et par rapport au loyer, prix des loyers, manque de maisons, prix des maisons et tout ça. Et c'est sûr que le gouvernement provincial a tué sa part là-dedans un peu, effectivement, comme tous les paliers de gouvernement. C'est sûr que les coûts de construction sont complètement... écoute, ça n'a pas de sens. On l'a fait le calcul, moi puis toi, Élise, un matin.
Oui.
Un nouveau projet ici dans la région qui a été annoncé à grande pompe. J'ai regardé le coût du projet divisé par le nombre d'unités qu'il y avait dans ce projet-là. Et juste au strict minimum, là, on n'a pas mis d'intérêt, on n'a pas mis rien. Puis évidemment, là, c'est un calcul qui est très... On n'a pas divisé ça par pied carré, là, fine. Mais on était à quoi, je pense? On était à 1500 piastres hein, par mois minimum si on amortissait ces coûts-là sur 25 ans. T'sais,
juste pour payer les frais, pas de maintenance.
Il n'y a pas de maintenance, puis il n'y a pas rien.
Les frais de construction, puis tout ça.
C'est juste pour payer le capital qui a été mis sur la table puis qu'on l'a mis sur 25 ans sans aucun intérêt. Là.
C'était
on était à 1500 piastres par mois minimum de loyer juste pour que le promoteur rentre dans son argent. Je sais bien que la province, c'est pas le bon Dieu non plus, là.
Ben, pis, mais
où est-ce qu'on en est dans ce plan-là?
Ben, regarde, on avait un plan pour bâtir 1,5 million d'unités sur 10 ans. Puis, écoute, c'est difficile parce qu'avec les taux d'intérêt, ça a beaucoup... c'est sûr que l'achat de maison, pour un bout, là, ça s'est calmé pas mal. Mais on a confiance que ça va reprendre. Les taux d'intérêt vont descendre. Mais nous, c'est vraiment de travailler avec les municipalités pour qu'ils soient prêts à recevoir les promoteurs, parce que c'est pas le gouvernement de l'Ontario. Puis tu sais, souvent, les gens vont dire « Ah, Doug Ford, c'est l'ami des développeurs, c'est l'ami des promoteurs. » Mais si on n'aurait pas de développeurs, il n'y en aurait pas de maison qui se construirait. Puis aujourd'hui, vous le savez, il faut être multimillionnaire pour un développement, veut dire, ça
pour
coûte
faire un
une fortune.
Ouais, quartier?
Pour faire
oh
un développement.
Mon Dieu, oublie ça.
Puis tu sais, ces gens-là, c'est eux qui ont l'argent attaché là. Moi, je dis toujours, c'est quand tu bâtis 60 étages à Toronto, là, avec 10 logements par étage, c'est pas, ça ne dure pas 3 mois, ça, là. Ça dure 2-3 ans, puis il y a de l'argent attaché là tout le temps avant que tu puisses pouvoir vendre le premier condo. Mais tu sais, c'est l'offre et la demande, évidemment. Si on aurait 500 000 logements de vacants en Ontario, c'est sûr que les prix baisseraient quand que ça vient à la location d'unités. Donc, c'est un peu le... on doit inciter à bâtir.
Mais en même temps, comment tu veux que les prix baissent si tes coûts de construction... OK? Donc, l'acquisition de ton terrain, la gestion de ton projet, tes coûts de construction, les matériaux, quand tu mets tout ça ensemble, pour le dernier projet qui a été annoncé, le minimum qu'ils peuvent charger, c'est 1500$ par mois. C'est là où... Mais je comprends que c'est toute une histoire d'offre et demande, mais tu ne peux pas descendre en bas de ton capital investi.
Non.
Donc, comment... Tu sais, est-ce que c'est un problème de terrain, de réglementation ou pénurie de main-d'œuvre où on a tout mis... Tous les ingrédients sont là en ce moment parce qu'on manque de main-d'œuvre, puis les terrains sont trop chers parce qu'il y a trop de zonage. C'est là où ce que.
C'est un gros mélange de tout
moi,
ça.
Moi, je pense que. Est-ce que c'est un gros mélange de tout ça? Ben, moi, j'ai l'impression que c'est ça.
Un
là.
Peu de tout. Je
absolument.
Pense.
Parce que regarde, notre gouvernement, avec notre fameux More Home, More Choices Act, là, qui est plus de logements, puis a mis toutes sortes d'initiatives en place. Okay? Il a dit aux municipalités, hey, changez vos règlements de zonage, changez vos règlements de frais de développement, chargez moins de frais de développement. Puis là, les municipalités disent, on a plus de misère que jamais, on doit avoir ces frais de développement-là. Bon, bien, ces frais de développement-là, est-ce que ça nuit à la croissance? Donc, tout ça ensemble, ça fait que c'est difficile. Puis si on voit là, à Toronto, par exemple, moi, j'ai été élu en 2022. Puis, quand j'arrivais là à Toronto, nous, on doit avoir un condo à Toronto. Donc, j'ai essayé de me trouver un condo à Toronto. Ça a fallu, je regarde à peu près 80 condos avant d'en trouver un. À toutes les fois, je disais, OK, ben je pense que ça, je suis intéressé à le louer. On me disait, il est déjà loué. Le marché était comme vraiment
c'est qu'il disait
fou.
Que tu faisais pas assez d'argent.
mais récemment, puis écoute, c'est payé par l'Assemblée législative, le condo,
en
faut
plus,
s'entendre.
Ah,
hein?
Ouais.
Parce que, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, récemment, j'ai déménagé.
Okay.
Puis j'ai eu un logement au centre-ville, à 2 coins de rue de Queen's Park, pour 400$ de moins par mois. Puis on voit déjà à Toronto qu'il y a comme un peu, ça se stabilise le marché des condos. Donc, plus qu'il va en avoir d'accessible. Puis...
Ah ben ça, c'est définitif.
Exactement.
Ben moi, c'est juste, pour ce qui est déjà construit, c'est une chose, mais pour ce qui va être construit de nouveau, à ces prix-là, tu sais, ton coût de construction, puis achever ton projet, c'est tellement cher.
Absolument. Puis c'est là qu'on doit miser beaucoup sur l'innovation. Hein. On le voit là, récemment, nous, avec le premier ministre, puis le ministre des Affaires municipales, puis du logement. On va voir des usines où ce qu'ils font des maisons modulaires, mais pas vraiment une maison préfabriquée, mais on voit qu'il y a de l'argent à investir. Ouais. Puis
chaque pièce est faite en usine. Puis après ça, c'est comme toutes des Legos qu'on met ensemble.
Exactement.
Ouais. Chaque pièce arrive sur le camion.
La maison est montée, là, si on parle juste la structure, est montée en une journée, deux journées. Puis ça, c'est des choses qu'on doit miser dessus, l'innovation. Puis comme je disais tantôt, c'est tout de s'adapter au changement. Tu sais. Même quand on parle du système de santé, qu'on parle du système d'éducation, il faut s'adapter au changement parce que vraiment, la façon que les gens font leurs choses aujourd'hui, puis que, tu sais, déjà, là, aujourd'hui, t'entends, là, les gens travaillent 35 heures semaine, OK? Ça, là, ça fait... Moi, dans mon temps, là, mon père, là, je pense que 35 heures, c'est ça qu'il faisait en overtime, lui, à peu près.
Ouais.
Puis, tu sais...
Mathieu, t'en fais combien par semaine?
Mais c'est à peu près ça, 35 d'overtime.
Ouais, d'overtime, oui, c'est ça.
Fait qu'on a besoin plus de main-d'œuvre. Puis on a besoin, parce que, tu sais, moi-même, là, quand j'étais jeune, puis je regarde mes parents, eux, ils étaient comme élevés un petit peu, tu sais, c'était pas riche. Puis ils me disaient que, mais ils ont jamais rien manqué de rien, mais à Noël, il y avait pas, en dessous de l'arbre de Noël, il y avait pratiquement rien, là, tu sais.
Ouais, moi, ma mère, elle disait, je travaille à la banque, mais je suis pas la banque.
Exactement. Mais minute, OK. Ben là, toi, tu suis, puis écoute, ça sort pas de ta bouche. C'est Tiff McLean. C'est qui, lui? C'est le gouverneur de la Banque du Canada. Qu'est-ce qui a été dit, dans une conférence, il y a quoi, un mois? que les Canadiens sont pas productifs. C'est ça qu'il a été dit. C'est pas la première fois qu'il dit. Il dit, ça fait plusieurs fois qu'il dit, on a des problèmes de productivité au Canada, on travaille pas assez, on produit. Le PIB par habitant est trop bas, faut travailler plus. C'est ça qu'il nous dit. C'est le gouverneur de la banque.
On regarde, là, si on regarde, là, puis là, je dérive un peu du sujet.
Ben non, mais c'est intéressant.
Mais si on regarde le système de santé,
ouais.
On a probablement des investissements comme qu'on n'a jamais eu en système de santé. On a probablement le nombre de médecins comme qu'on n'a jamais eu. Mais mon vieux médecin, Dr Bergevin, qui était Alfred, il y a 30 ans, il y avait 2500 patients, puis il travaillait jusqu'à minuit le soir. Mais aujourd'hui, les gens, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Peut-être qu'on n'est plus intelligent dans le sens qu'on regarde à notre qualité de vie, à passer du temps avec nos familles. T'sais, mais ça reste que le médecin d'aujourd'hui, il y a peut-être 800 patients, 1000 patients. T'sais. Tandis que, puis là, tu as plus de médecins que jamais. Souvent, on entend quelque chose qui me fait rire à chaque fois. Ben ça me fait pas rire, mais on entend dire il y a 2 millions de personnes en Ontario qui n'ont pas de médecin de famille. Mais si tu vas au Québec, il y a bien plus que ça. Puis on est 16 millions d'habitants ici.
Au prorata,
il peut pas avoir 2 millions au Manitoba qui n'ont pas de médecin de famille parce que la population est probablement pas 2 millions.
2 millions et demi,
oui. Ah, c'est ça, tu sais. c'est toutes des choses que tu te dis, écoute, je pense qu'on réussit bien. Mais c'est sûr que tout est à propos de l'argent. Puis est-ce qu'on veut se rendre, comme le gouvernement fédéral, à payer 1 milliard par semaine en intérêt sur la dette? Je pense qu'on doit être fiscalement responsable puis pas se rendre là.
Parlant de médecins, on va finir là-dessus. Hey, déjà rendu 8 heures, ouais. Pareil. Hein? Ouais,
on peut rester jusqu'à midi.
Parle, jase. Hey, mais ça serait bon, ça. Hey, tu serais bon à animer chaud du matin, Stéphane.
On cherchait quelqu'un.
Ben, je regarderais ça à ma retraite. Ce serait peut-être une option de retraite.
Ouais. Avec les élections qui s'en viennent, on sait jamais.
On sait jamais.
OK. Non, je te blague. Pour les médecins, justement, parce que ça a fait jaser pas mal, OK? Surtout, puis c'est là où tu vois des fois que la bureaucratie et la façon dont... Il y a, t'sais, ça, plus qu'on met de structures de bureaucratie et de règles et d'administration, plus que tu finis par, des fois, avoir certaines incohérences. Donc, dans ce cas-ci, entre autres, on va parler du cas de Castleman.
Oui.
Qui est considéré moins rural que 3 mètres à côté à la Nation.
Absolument.
Et ce qui fait en sorte qu'entre autres, on a une pétition qui circule, puis je pense qu'elle circule encore en ce moment, de la clinique médicale de Castleman qui veut avoir le même indice de ruralité que la Nation parce qu'elle perd des médecins, parce que tu fais 3,5 secondes de char à Castleman, c'est pas long, là. Et on parle de milliers de dollars de différence en termes de rémunération puis de subvention pour les cliniques et les médecins. Qu'est-ce qui arrive de ce dossier-là? Parce que la clinique a de la misère à recruter, là.
Oui, puis écoute, j'ai apporté le sujet à la ministre de la Santé. J'ai dit, tu sais, on offre 80 000 $ à des médecins pour qu'ils viennent dans des zones qui sont moins bien servies. Mais après, on prend ces médecins-là, puis c'est cette zone-là où ce que le médecin est parti qui devient la zone moins servie. Puis qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, écoute, dans toutes les choses, il y a des failles.
Ouais.
Puis si le médecin est prêt à aller ramasser le 80 000 $ puis partir de Castleman à aller à Limoges, ben est-ce que c'est des belles intentions? Moi, je trouve, en tout cas, je veux pas abaisser le médecin, mais c'est quand même pas fort là, de dire je vais collecter 80 000, je vais m'en aller à Limoges, je sais pas.
Même temps, c'est parce que c'est une situation géographique qui est particulière. Donc,
absolument. Puis le conseil municipal a rencontré le ministre de la Santé à ce sujet-là, OK? Puis on a réalisé que ce fameux rating-là qu'on parle, c'est pas le ministre de la Santé, c'est l'OMA qui le donne. Donc là, il y a des discussions qui vont avec l'OMA, comme un autre sujet qu'on voit des fois. Puis je veux pas défendre le gouvernement, mais tu sais, si on voit le médecin qui arrive de l'Australie au Canada... Ils disent, wow, toi, t'es pas capable de pratiquer ici, au Canada, parce que, tu sais, t'es un médecin d'Australie. Parce que ça, c'est l'ordre des médecins de l'Ontario qui dit, non, 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 lui, il peut pas. Mais entre moi et toi, le corps humain en Australie, puis le corps humain ici,
en
Ontario, est-ce qu'il est bien différent?
C'est pas la même chose.
C'est pas le même fuseau horaire.
Ah, c'est ça. Fait que, il y a plein de...
Parce que l'Australie, on comprend que si tu viens d'un pays où c'est un peu plus difficile, c'est une chose. OK, je ne nommerai pas de pays, là, mais on en a tout en tête des pays où ouais, tu ouais. dirais, bon, OK, peut-être qu'il y a un peu de rattrapage à avoir. Peut-être. Mais quand tu es dans un pays du Commonwealth, en fait, moi, personnellement, si tu veux mon avis, je pense que je ferais plus confiance à un médecin britannique qu'à un médecin canadien. Tu sais, parce qu'il étudie peut-être à Oxford. Non, mais c'est la réalité est celle-là, tu sais.
Non, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Puis, tu sais, de tout gérer ça pour le gouvernement, c'est vraiment un défi. Puis on continue à essayer d'investir le plus possible. Puis on l'a vu récemment, hein, les initiatives qu'on met en place. Tu sais, moi, je dis toujours, on va payer pour envoyer des médecins à l'université, on va payer pour envoyer des nurses à l'université,
les super infirmières.
Souvent, j'ai de la misère avec ces termes-là. Mais on va payer pour ça, mais quand est-ce qu'on va voir ça? Un médecin, là, ça prend combien d'années à se former? On va voir ça dans 5, 6, 7, 8 ans. Puis là, dans 8 ans, qui va être au pouvoir? Ce sera probablement pas le gouvernement
qui a mis ces initiatives-là
en place. Ouais.
C'est... Puis le médecin qu'on a payé, c'est ça aussi, là, parce que c'est le fun que le médecin ait des subventions, mais ultimement, le médecin, il n'est pas obligé de passer les 20 prochaines années en Ontario non plus.
Mais il y a quand même tant d'années de service à donner dans la province par rapport à ce programme-là.
Oui.
T'sais, mais oui. Puis,
ultimement, après 10 ans, s'il veut quitter, il peut. Là.
Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement se dit? C'est qu'après qu'il s'est établi ici puis qu'il a été ici 5 ans, il y a des chances qu'il s'est établi.
Sa clinique est ici, ses patients sont ici.
Sa famille,
ses
amis.
C'est sûr.
Il n'y a rien qui n'est pas, comme on dirait, goof-proof. Il y a tout le temps des failles.
Plus tu es proche de la frontière américaine, selon moi, là, plus que tu es à risque. Là.
Exactement. Tu pourras en parler aux gens de Windsor. Là,
C'est ça. C'est des chèques en blanc, l'autre bord, là, des fois. Là. J'ai déjà entendu ça. Le neurochirurgien, chèque en blanc. Mets le montant que tu veux, on t'embauche au côté américain. Là.
C'est tout des gros défis. Mais tu sais, quand tu parles à des gens qui étaient au Québec puis qui sont arrivés ici en Ontario, je ne sais pas si toi, Mathieu, tu es éligible pour avoir un médecin de famille en Ontario. Mais moi, j'ai ma conjointe qui avait pratiquement pas de médecin de famille quand elle vivait au Québec. Puis elle est arrivée ici, puis je te dirais qu'en dedans de 6 mois, un an, elle a trouvé un médecin de famille.
Oui, bien la dynamique. Dynamique est complètement différente. Non, là, c'est ça, sûr. Mais tu sais, en même temps, c'est pas tant un bon comparatif en ce sens où c'est tellement tout croche là, que je suis pas sûr que tu veux te comparer. Parle le nange, parce que c'est pas mal
le
ça.
Le système, il est déjà mieux.
OK, mais c'est tout intéressant. Intéressant tout ça. Stéphane, je vais finir avec toi. Dernière petite question, OK, parce que là, on dépasse pas mal. Mais c'est toujours tellement intéressant quand t'es là. On pourrait faire un podcast,
On pourrait.
On pourrait t'avoir jusqu'à midi aussi, d'ailleurs. Ou à un moment donné, comme animateur du matin, ce serait cool. un jour.
Bon. 15 élections.
Tu mets-tu un petit 5$ si tu sais que je reviens de Vegas? Donc là, moi, je suis comme dans le jeu d'hasard en ce moment. Là, j'aime ça, les jeux d'hasard. Là. On bête combien... quand est-ce qu'on tombe en élection fédérale? Là? Toi, tu dois avoir des petits secrets que nous, on n'a pas, là, même si c'est pas ton département. J'imagine que vous parlez pareil entre le provincial et le fédéral. On tombe en élection,
vraiment,
là?
Je pense que c'est vraiment imprévisible. Hein? La journée que... Ça peut changer très rapidement au fédéral. Hein?
Ouais.
On voit qu'il y a un manque de confiance... à l'intérieur du Parti libéral, puis, tu sais, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Là. Si des gens décident de ne pas aller voter une journée, ça prend le nombre de votes nécessaires pour vraiment
Tu penses que ça pourrait tomber au travers de son propre parti?
Ça pourrait arriver.
Moi, je pense que c'est imprévisible, honnêtement. Puis même si, advenant que... il n'y aurait plus la confiance de Justin Trudeau, ben il y a quand même un processus. Il y aurait peut-être quelqu'un par intérim. Puis donc, de dire à quelle date qu'on aurait des élections, je pense que c'est comme vraiment comme aller jouer à Las Vegas.
Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas.
Je pense que c'est ça.
Que ce soit les conservateurs, les bloquistes, l'NPD ou les libéraux, je pense qu'eux-mêmes, ils sont pas sûrs. Ils savent que c'est imminent, mais le comment, le quand et surtout le comment ça va se faire, il n'y a personne qui est encore assuré de... qui serait capable de bêter là-dessus encore. Là.
Beaucoup de questions à venir.
Ah, c'est intéressant.
Personne n'a une boule de cristal, Mathieu.
Non, je sais, mais des fois, je me suis dit, tu sais, il est quand même à Queen's Park, peut-être qu'il y a des amis au fédéral qui donnent, tu sais, 2-3 petites infos qu'il aurait pu nous dire, ça aurait été le fun, mais non.
Il veut pas!
Non, honnêtement...
Je ne sais pas plus.
Non,
mais je pense que c'est ça. Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas, en fait. C'est ça l'histoire.
C'est ça.
OK, ben c'est super intéressant. On s'en parle bientôt?
Super, je te jure.
On se retourne à Queen's Park?
Oui, je retourne à Queen's Park demain matin. Parce que j'ai deux comités demain. On a des comités. C'est ça, tu sais, des fois, on dit on est dans la circonscription. Comme cette semaine, c'était ma semaine dans la circonscription.
Ouais.
Mais là, jeudi, vendredi à Queen's Park, je reviens pour la fin de semaine. Puis je repars la semaine prochaine. Donc, trois semaines
C'est parfait,
à Toronto, une semaine ici. Donc, ça fait beaucoup de voyagements. On a du plaisir.
OK. Ben, on s'en reparle dès que tu seras de retour pour le break du temps des fêtes, j'imagine.
Absolument. Ça me fait plaisir.
Parfait.